Chapitre 2. Preuve de goût. La présence de Lionel suspendit les questions d'Eugénia. L'orgueil irrité absorbait dans l'âme de Camilla tout autre sentiment. Lorsqu'ils eurent fait environ un demi-mille, « Mesdemoiselles, dit Lionel, je veux vous proposer une partie. » Il fit alors arrêter la voiture et dit d'aller à Cornfield, ajoutant que ce n'était qu'à la distance de 2 milles et que le cocher ne s'y refuserait pas. Celui-ci, séduit par un écu, dit que ses chevaux n'en seraient que mieux de faire un peu plus d'exercice, et Jacob, qui, dès l'enfance, était l'ami de Lionel, ne fit point de difficulté. Lionel pria ses sœurs de ne lui point faire de questions, les assurant qu'il avait de grands desseins et qu'il allait leur procurer une surprise très agréable. On marcha sous sa conduite jusque devant une petite maison en briques, percée au rez-de-chaussée de 2 petites fenêtres voûtées, entre lesquelles était une porte étroite ornée de morceaux de verre coupés en différentes formes, au premier étage un petit balcon décoré de petits amours de plomb et dans l'attique une lucarne à la vénitienne formée de tuiles peintes représentant divers jeux de chiens, de chats, d'oiseaux et de souris, de rats et de belettes comme autant d'emblèmes de l'amour conjugal. « Eh bien, mesdemoiselles, que dites-vous de ceci ? » s'écria Lionel. « Cela vous plaît-il ? « Si cela vous convient, c'est à vous. » Eugénia demanda ce qu'il voulait dire. « Je le répète, c'est à celle de vous deux qui sera la meilleure enfant. Allons, ne faites pas les dédaigneuses. Eugénia, qu'en dites-vous ? Ne vaudrait-il pas mieux être la maîtresse de cette jolie petite dabatière et d'un joli petit mari ? Car c'est une des dépendances de ce domaine. Que de passer toute la journée à faire un thème avec le docteur Horborn ? J'ai souvent été tentée de croire que mon pauvre oncle avait perdu la raison lorsqu'il nous avait destinés tous à recevoir des leçons et des férules de ce vieux pédant. Mais nous avons tous secoué le joug, excepté la pauvre Eugénia qui travaille pour nous tous. Voilà pourtant une occasion. Quel endroit charmant! Cela n'est pas fini, mais voyez ce lac. Comme il est frais et champêtre! Un lac, dit Eugénia, je ne vois qu'une vilaine petite mare. « C'est là, mon enfant, la beauté de la chose. Elle est exactement dans l'état qui convient pour être finie sous vos yeux et suivant votre goût. On la prépare pour un fort joli jeune homme auquel je vous conseille à toutes deux de penser. Tenez, je vois quelqu'un qui paraît. Je vais aller vous chercher des nouvelles. » Il sortit alors de la voiture, monta 5 marches étroites formées d'autant de grosses pierres brutes, qui s'élevait tellement au-dessus du seuil de la maison qu'en ouvrant la porte, on trouvait un escabeau pour aider les entrants à gagner le carreau du vestibule. Eugénia, regardant avec quelque curiosité, vit son frère qui, après être entré avec un peu de peine, parlait à un très petit homme mal vêtu qui l'entraînait presque malgré lui. « Oh, je ne peux vous excuser, lui disait-il. Je veux absolument que vous nous montriez la maison. Je vous amène 2 dames pour la voir. » Et qui sait si l'une d'elles ne va pas la prendre en gré et vous rendre heureux pour la vie. Quant à cela, répondait l'homme, cherchant toujours à se retirer, je ne peux dire que je sois encore réconcilié tout à fait avec le mariage. J'ai tâté de cet état, mais si jamais je me remarie, ce ne sera pas les yeux fermés comme un enfant sans savoir ce que je ferai. Au reste, j'aurai tout le temps d'y penser lorsque ma maison sera faite et que je serai débarrassé des ouvriers. Camilla, reconnaissant alors le langage et le son de voix, vit que c'était M. Dubster. Bah, bah, répondit Lionel, vous ne devez pas être si difficile quand il est question de belles dames. D'ailleurs, une d'elles est la jolie demoiselle avec laquelle vous avez plaisanté à Norwich. C'est une sœur à moi. Je serai très mécontent si vous ne lui donnez pas la main pour descendre de voiture et si vous ne lui montrez pas votre maison. Camilla, très fâchée, appela plusieurs fois son frère, et toujours inutilement. « Mais, dit M. Dubster, la maison n'est pas à moitié finie, pas au quart même. Et quant à cette jeune dame, je lui demande pardon si je ne peux dire que j'ai fort envie de lui faire la politesse après le tour qu'elle m'a joué la dernière fois. J'ose dire qu'il n'était pas trop beau de me laisser acheter des gants. Ce n'est pas que je m'en soucie, car... Allons, allons, il ne faut pas avoir de rancune contre une jolie femme. D'ailleurs, la voilà qui vient elle-même pour vous faire ses excuses. Oh, c'est autre chose. Si la dame se repent, je ne lui en tiendrai pas rigueur. D'ailleurs, je ne vous cacherai pas que je la trouve fort agréable à la manière près dont elle s'est conduite. « Il faut vous raccommoder aujourd'hui, » dit Lionel qui voulait l'entraîner vers la voiture. Mais il soutenait qu'il était honteux de paraître dans un si grand négligé qu'il devait auparavant monter à sa chambre et s'habiller. Lionel, au contraire, l'assurant que rien n'était si mal qu'un certain extérieur négligé, le poussait vers la portière de la voiture malgré tous les efforts qu'il faisait pour se dégager et se cacher derrière son introducteur. « Mesdames, dit-il, M. Dufster voudrait avoir l'honneur de vous faire voir sa maison ainsi que les dehors. » Camilla déclara qu'elle n'avait pas le temps de descendre. Mais Lionel, insistant, les força l'une et l'autre de descendre de voiture. M. Dufster, qui, dans sa grande parure, était si droit, si glorieux et si rengorgé, était alors honteux et très humilié. Et lorsqu'ils furent obligés d'entrer dans son terrain par une petite porte à la chinoise, peinte en bleu foncé, il se serait caché tout à fait si Lionel ne l'eût rassuré sur le jugement que ces dames portaient de sa toilette. Encouragé par ce succès, il s'avança hardiment et fit un grand salut en disant « Mesdames, votre humble serviteur !» Elles lui firent une légère révérence et Camilla dit qu'elle était fâchée de le déranger. « Oh, qu'importe !» reprit-il, très content de cette politesse. « J'espère seulement, mesdames, que vous ne serez pas choquées de ce que je vous reçois dans ce désordre. Vous m'avez prise à l'improviste. Mon meilleur habit est justement chez Tom X, proprement enveloppé. Mais je l'aurai, avec le plus grand plaisir, envoyé chercher pour avoir l'honneur de vous saluer si monsieur avait voulu me laisser faire. » Puis, reconnaissant Eugénia, « Ah, ah, madame, dit-il tout bas à Camilla, c'est la petite boiteuse avec qui je vous ai vue. » « Monsieur, c'est ma sœur, » répondit vivement Camilla. « Ah, grand Dieu, madame, » s'écria-t-il en levant les bras, « pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt? Je vous proteste que si je m'étais douté qu'elle fût votre parente, je n'aurais pas dit un mot désobligeant pour elle. » Lionel lui demanda depuis combien de temps il avait cette maison. « Depuis peu et par une occasion fort heureuse. Un de mes amis vient d'en être évincé, faute de pouvoir la payer. » J'ai profité du bon marché. Je me propose de la décorer un peu, et si elle ne me plaît pas, je pourrai toujours la louer. » Cependant, Lionel les avait conduites dans la maison, moitié blanchie, moitié garnie de papier et sans meubles. Les ouvriers, dit M. Dufster, étaient allés dîner. Il était bien aise que la compagnie fût venue dans ce moment, parce qu'il ne courait point le risque de laisser les ouvriers seuls et prenant du bon temps pendant qu'il serait avec ces dames. Il voulut absolument leur faire voir, non seulement chaque chambre, mais jusqu'au plus petit cabinet, garde-robe, coin, recoin, leur enseigner la destination de chaque chose et de leur en montrer, dans le plus petit détail, l'usage et la commodité. « Mais je suis bien fâchée, mesdemoiselles, de n'avoir rien à vous offrir. Je dîne toujours à l'auberge, n'ayant personne ici pour me faire la cuisine. Cependant, si monsieur avait eu la bonté de me prévenir de l'honneur qu'il voulait me faire en vous amenant ici, j'aurais pu me procurer quelques gâteaux. » Le bruit de plusieurs chevaux au galop, les ayant alors attirés vers la fenêtre, ils virent une troupe de chiens chassant, suivis par quelques cavaliers. Lionel s'écria qu'il allait emprunter la jument de Jacob et suivre la chasse, tandis que ses sœurs feraient un tour de promenade. Mais Camilla, le prenant à part, le pria sérieusement de n'en rien faire. Elle ajouta que son père, malgré son excessive indulgence, et même leur oncle, serait certainement mécontent s'il les laissait seuls avec cet homme dont elle ne connaissait autre chose que sa profession. « Et quel est son métier ?»« Celui de chaudronnier, à ce que m'a dit Mistress Albury. » Lionel, à cette nouvelle, éclata de rire, protestant qu'il était enchanté d'apprendre qu'on gagnât dans cet état autant d'argent et qu'il était résolu de s'y livrer au premier jour. Il déclara pourtant qu'il regardait cela comme une malice de Mistress Albury, car il avait ouï dire que Dufster avait fait commerce de perruques. Dufster les conduisit alors en face de la maison pour leur faire voir son étang. « C'est là, dit-il, ce que je préfère à tout le reste. Je le peuplerai bien et je compte qu'il me fera faire plus d'un bon dîner. L'eau m'en vient quelquefois à la bouche rien qu'à le regarder. Par exemple, je veux avoir un cygne. » « Un cygne ? Quoi ? Sûrement, vous ne vous contenterez pas d'un seul. » Oh, c'en sera bien assez. Il ne sera que de bois peint en blanc. On se finit point de nourrir les animaux quand on les a vivants. Et puis, celui-là ne mordra point. Ces animaux-là sont singulièrement colères. Il ne fait pas bon les irriter quand on est à leur portée. Mais quand mon île sera finie, j'aurai quelque chose qui plaira fort à ces dames, un petit agneau. Vivant ou mort ? Demanda Lionel. Vivant, reprit-il, car j'aurai de bonnes pâtures dans un petit terrain voisin où je compte tenir une vache. Et quand mon agneau sera bon à tuer, il ira chez le boucher, suivant un marché que j'ai déjà fait avec lui. Votre demeure, dit Lionel, va devenir un vrai paradis. Vraiment, monsieur, j'ai bien acquis le droit de m'amuser un peu, car j'ai assez travaillé pour cela avant que d'épouser ma première femme. Ainsi, vous avez commencé votre fortune en vous mariant. Oui, monsieur, et ma femme était assez jolie, mais d'une mauvaise santé. Elle m'a coûté bien de l'argent chez l'apothicaire avant de mourir. Pauvre femme. Ils repassèrent alors sur la planche et s'avancèrent vers un angle dans lequel se trouvait près d'une barrière à la chinoise un banc presque ombragé par un saule planté dans une petite mare voisine. En face était un seringa. Sur la droite, un genêt se joignait au saule. Au milieu s'élevait une table de sapin. « À présent, mesdemoiselles, dit Dumpster, si vous avez envie de respirer un peu l'air frais de la campagne, c'est ici que je vous conseille de vous reposer. Lorsque je suis arrivé dans ce lieu, je n'avais de vue que sur les champs, mais j'ai coupé tous les lilas et planté quelques saules. À présent, l'effet est joli. Vous ne sauriez croire quelle quantité de monde, de voitures, de whisky, de cabriolets, de diligences et de charrettes de toute espèce passent par ici tous les jours. Je pense quelquefois que ces gens n'ont rien à faire chez eux. » Il voulut ensuite mener les dames à sa grotte, qu'il ne faisait, dit-il, que de commencer. Ce n'était encore, en effet, qu'un petit trou creusé dans un sol crayeux. Et comme il n'avait pas encore pratiqué de marche pour y descendre, il se laissa glisser comme il put, au détriment de son vieil habit brun qu'il blanchit d'un bout à l'autre. Il invita les dames à le suivre, afin qu'il pût leur montrer le plan qu'il avait tracé lui-même pour en décorer l'intérieur. Lionel ne voulut pas permettre à ses sœurs de se refuser à cette complaisance, quoique M. Dubster lui-même les avertit de prendre beaucoup de précautions, surtout la petite dame qui, disait-il, a déjà eu, je crois, un accident. Ce serait grande pitié qu'à son âge elle fût estropiée de l'autre côté. Eugénia, qui ne savait pas que son infirmité fût si visible, fut très choquée de ce discours, et Camilla lançait des regards irrités à celui qui l'avait tenu pour le faire taire. Mais lui, sans y faire aucune attention, « Madame, dit-il à Eugénia, est-ce une chute que vous avez faite, ou bien est-ce de naissance ?» Eugénia témoigna sa surprise et son mécontentement. Camilla se hâta de dire à Dubster que c'était une chute et le pria de n'en plus parler. Mais Dubster ajouta « Je conçois, Miss, que cet événement ait arrêté votre croissance, car on voit que vous auriez été grande si ce raccourcissement… » Ici, Camilla, sans attendre qu'on l'aidât, se laissa glisser dans la future grotte et fit mille questions pour détourner la conversation, tandis que Eugénia, très déconcertée, la suivait lentement avec le secours de Lionel. Monsieur Dubster, alors, développa l'ingénieux mélange d'anneaux et de diamants dont il se proposait d'embellir sa grotte. Les premiers devaient être faits avec des coquilles de pétoncles qu'il avait le projet de faire peindre en bleu. Il devait faire les diamants avec des morceaux de charbon de terre. Entre chaque rang devait se trouver une écaille d'huître et, d'espace en espace, il avait dessein de laisser jouer la craie, ce qui, disait-il, entretiendrait la grotte plus gaie et plus claire. Malheureusement, il n'avait point de coquilles. Mais comme il avait envie de faire un voyage dans la belle saison à Brickelstone, il se proposait d'en faire une ample collection parce qu'il avait ouï dire qu'on y trouvait des coquilles et même des cailloux tant qu'on en voulait et qu'il n'en coûterait que la peine de les ramasser sur le rivage. Ils allèrent ensuite à ce qu'il appelait son labyrinthe. C'était une petite promenade qu'il faisait tailler en zigzag au travers de quelques broussailles de façon qu'il n'y avait que des personnes au-dessous de 3 pieds qui pussent s'y cacher. Chaque pas qu'on faisait emportait un lambeau de la mousseline d'une des deux sœurs. Ce que M. Dubster observait avec plaisir, en disant que c'était une vraie promenade rustique qui leur ferait beaucoup de bien. « Nous qui vivons à la ville, ajoutait-il, nous donnerions tout au monde pour avoir quelque chose de semblable. » Et quoiqu'elle ne pût se faire une toise de chemin sans s'arrêter pour se dépêtrer des ronces et des branches, ils protestaient avec enthousiasme que cela leur donnerait un bon appétit pour le dîner et demandaient si cette petite excursion champêtre ne leur faisait pas déjà sentir la faim. « Pour moi, continua-t-il, je veux faire tous les jours un tour dans ce labyrinthe avant le dîner. » Alors il pria la compagnie de se rendre promptement à son pavillon d'été parce que ses ouvriers allaient revenir et qu'alors il ne pourrait pas rester un moment de plus sans faire tort à son dîner. « Mon pavillon, dit-il, n'est pas à moitié fini, mais quand il sera fait, il sera fort joli. Seulement, je n'ai point encore d'escalier, mais l'échelle est fort bonne et j'espère que cela ne fait pas peur à ces dames. » Les dames demandèrent l'une et l'autre qu'on les dispensât de monter. Mais Lionel protesta qu'il ne souffrirait pas qu'on manquât à son ami. Et comme ni l'une ni l'autre n'avaient l'habitude de lui résister, ni de faire à ce qu'il leur proposait une opposition sérieuse, elles furent bientôt forcées de se rendre et de monter. M. Dufter les suivit. Le pavillon n'était encore qu'une carcasse sans porte ni fenêtre. Le toit était à peine fini. Les murs étaient composés de lattes recouvertes de plâtre qui n'étaient pas à moitié secs. Il avait vu sur la grande route, et M. Dufter assura que les jours du marché, il y passait tant de gens qu'on avait peine à les voir à cause de la poussière. Ici, les deux dames eurent lieu de se repentir de leur facilité, dangereuse et pardonnable défaut de leur âge. Car à peine étaient-elles entrées que Lionel, apercevant de loin un cerf que poursuivait une troupe de chasseurs, se précipita du pavillon en bas et, tout en criant « Je vais revenir à l'instant !» il s'éloigna de la maison, entraînant l'échelle après lui. Ses sœurs le prièrent avec instance et presque avec colère, mais inutilement. Et tandis qu'elles le suppliaient toujours, supposant, quoiqu'elles ne le vissent plus, qu'ils pouvaient encore les entendre, elles le virent par la fenêtre passer à cheval sur la grande route, une gaule à la main, et paraissant très content. « J'ai pris, leur cria-t-il, la jument de Jacob pour suivre la chasse pendant une petite demi-heure. Mais ne vous impatientez pas, je ne serai pas longtemps. » Puis, avec un éclat de rire, il partit au galop, malgré les instances de ses sœurs, et sans vouloir entendre une seule des lamentations de M. Dufter.